diversité, c'est quand même avant tout un terme que vous avez tous entendu parler. En principe, vous savez tous ce qu'est à peu près la biodiversité, ou en tout cas vous croyez le savoir. Et biodiversité, c'est composé de deux mots. Bio pour biologie, et puis diversité pour la diversité qu'on rencontre dans le monde biologique. Alors, la définition de biodiversité est une définition assez difficile à formuler de façon simple, à part la façon dont j'ai présenté là, c'est-à-dire la diversité du monde biologique. Il y a différentes façons de présenter les choses, et notamment des définitions assez réglementaires qui ont été reconnues par de nombreux scientifiques. Alors moi, je vais prendre une définition assez générale, et il me semble que c'est dans ce cadre-là qu'il faut étudier dans un premier temps la biodiversité. Alors ici, quelques images qui montrent des aspects de la biodiversité. La première des images, ici, présente des truffes. Vous ne voyez pas certains d'entre vous. Alors, imaginez des truffes. Alors, les truffes, eh bien, ça fait partie des éléments qui interviennent dans notre alimentation, plus ou moins de façon courante. Mais la diversité de ce que vous mangez, ça fait partie de la biodiversité. Vous avez ici différents représentants de l'espèce humaine. Vous avez au sein de l'espèce humaine une diversité. Et si vous vous regardez, vous verrez que personne n'est identique, même si vous aviez des vrais jumeaux, il y a des différences. Cette diversité de l'humanité fait partie de la biodiversité. Vous avez une diversité des variétés d'éléments cultivés qui nous servent comme source de nourriture. Alors ici, du maïs, cette diversité, eh bien, elle fait aussi partie de la biodiversité, même si elle a été générée de façon artificielle par l'activité humaine. La diversité, ça peut être la diversité des formes. Ici, vous avez du phytoplancton. Alors, c'est quoi? Des petites algues qu'on trouve, par exemple, dans une mare ou dans la mer. Vous voyez une diversité des formes qui est assez remarquable. Il s'agit d'algues ici qu'on appelle des diatomées. Vous voyez que la morphologie de ces algues est variable. Vous avez ici des bactéries et ici une éponge, une véritable éponge, une éponge marine. Et vous voyez l'ensemble de la diversité peut avoir, de façon globale, des aspects différents. Alors, la diversité, elle peut se voir à différents niveaux. Vous avez peut-être vu en cours qu'il existait de l'ADN et que l'ADN était le support d'une information génétique. Alors, cette molécule d'ADN, elle est différente d'un individu à un autre et d'une espèce à une autre. Et on peut considérer, si par exemple on prend un individu ici, on peut considérer qu'il y a au sein de notre noyau une forte diversité des gènes. Cette diversité des gènes, avec des gènes qui se ressemblent plus ou moins, ça fait partie de la biodiversité. C'est-à-dire que la biodiversité, ce n'est pas uniquement en tant qu'individu, mais à l'intérieur d'un individu, il peut y avoir de la diversité. Et ça, ce sont des éléments importants pour comprendre la suite de ce que je vais expliquer. Alors, nous avons, dans la population humaine, un gène, enfin des milliers de gènes, mais vous pouvez prendre un exemple, un gène, et vous allez pouvoir, dans une population, rencontrer pour le même gène différentes formes. D'accord? Ces variantes vont pouvoir, par exemple, dans certains cas, générer des maladies dans l'espèce humaine, eh bien, ou alors bien sûr, donner des caractéristiques propres à certains individus par rapport à d'autres. Cette diversité qu'on appelle allélique, c'est-à-dire que un gène peut être représenté sous différentes formes, c'est aussi un élément très important de la biodiversité. Donc la diversité, c'est une diversité spécifique, c'est-à-dire vous avez l'espèce humaine, vous avez, je ne sais pas, votre chien, votre chat, un arbre. C'est une diversité à l'intérieur de chaque espèce par la diversité génétique, comme je viens de l'expliquer, mais c'est aussi la diversité des comportements et des physiologies. Un exemple extrêmement simple, vous avez ici des oiseaux qui viennent capturer, voler la nourriture que l'homme met à sa disposition pour lui-même. Mais ces oiseaux ont découvert le moyen de s'alimenter de façon plus simple que d'aller chercher dans la nature en prenant directement dans notre assiette. Cette diversité de comportement et de physiologie, c'est la biodiversité. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la biodiversité, c'est aussi la diversité des interactions qui existent entre les individus. Vous avez des exemples bien précis qui illustrent des interactions variables et qui sont aussi extrêmement intéressantes à comprendre pour la biodiversité. Une interaction extrêmement simple que vous connaissez toutes, le lion consomme certains herbivores, et cette prédation, c'est une des formes les plus simples des interactions qui existent entre des animaux ou des espèces différentes. Mais vous avez des interactions peut-être moins évidentes pour vous, comme par exemple ici des rémoras qui utilisent ce requin comme moyen de transport. Ces interactions-là, cette interaction d'utiliser un animal comme moyen de transport, ça fait partie de la biodiversité, il ne faut pas l'oublier. Vous avez ici du corail. Le corail, c'est en fait une espèce animale qui est associée à une espèce d'algue. Cette association est indispensable pour la vie du corail, c'est-à-dire quand les algues disparaissent, à ce moment-là, l'animal qui constitue l'essentiel de l'organisme va mourir lui aussi. C'est ce qui se passe actuellement dans certaines régions du monde où les températures de l'eau augmentent de façon considérable. Un exemple, les Antilles, par exemple. On sait qu'il y a des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes aux Antilles et que les coraux meurent par l'excès de chaleur. Ça tue d'abord les algues. Et ça pose un problème. Le corail ne vit que parce qu'il y a une association. D'autres interactions, ici, c'est du lichen. Le lichen, c'est ce qui recouvre les arbres, les maisons. C'est une association entre un champignon et une algue. Parfois même, il y a deux algues. Donc ça, c'est aussi intéressant. Enfin, un élément qu'on oublie parfois dans les interactions, il existe, ici, ce sont des interactions à bénéfice réciproque, c'est-à-dire que le champignon donne la maison, l'algue donne la nourriture, donc ça marche dans les deux sens, chacun tire un bénéfice. Par contre, cette association-là, c'est ici un parasite du crabe. Vous voyez ici que la partie externe de ce parasite, et évidemment, le parasite utilise le crabe comme source de nourriture. Le crabe, lui, ne tire pas de bénéfice de cette association, puisque sa reproduction est bloquée, sa croissance est bloquée. Il ne fait que finalement nourrir son parasite. Ça fait aussi partie de la biodiversité. Ça, c'est important de commencer comme ça, d'avoir une vision d'ensemble. Puisqu'il y a des interactions entre les espèces, il faut bien penser que, en fonction des endroits du monde où on va se trouver, il y aura des milieux différents. Et ces milieux sont appelés des écosystèmes. Au sein de ces écosystèmes, il y a un certain nombre d'organismes vivants qui sont en interaction. Et on va prendre quelques exemples. Ici, une mare de nos régions. Ça peut constituer un écosystème à part entière. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est fermé. Il y a des échanges avec l'extérieur, mais en soi, c'est un système qui tourne beaucoup sur lui-même. Ici, vous avez un exemple de savane. Ici, vous avez la Manche ou la mer du Nord, donc un exemple d'écosystème marin tempéré. Ici, vous avez un exemple comparable, mais en mer chaude, en récif corallien. Vous avez ici un exemple de désert, et ici, un exemple de forêt tropicale. Donc ça, chaque écosystème, ça fait aussi partie de la biodiversité. Alors, la question qu'on peut se poser, puisque vous avez tous entendu parler du fait qu'il y avait un problème dans la gestion de la biodiversité. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le thème de l'année, quel est le thème de cette année? Justement, c'est la biodiversité. Ça, en 2010, on vient à parler de la biodiversité comme étant le thème de l'année. Ça veut dire que quand même l'homme a compris que c'était quelque chose qui était fondamental, certainement. Sinon, sans quoi il ne serait pas je ne serais peut-être pas là en train de vous en parler. Alors sachez que ce mot de biodiversité, il est récent. C'est-à-dire qu'il date du milieu des années 80. La prise de conscience de ce que je viens de dire, de ce qu'est la biodiversité, est quelque chose d'assez récent dans l'humanité. Si vous vous basez sur tout ce que vous avez fait dans vos cours d'histoire, 1985, on va dire, c'est extrêmement récent par rapport à toutes les préoccupations que l'homme a eues avant. Et c'est 1992, la date clé pour la biodiversité, parce que c'est la conférence de Rio de Janeiro, où, pour la première fois, on considère que la biodiversité est quelque chose d'important. Donc vous voyez, on est dans quelque chose d'assez récent, et qui est difficile à définir, mais aussi difficile à mesurer. Finalement, pourquoi le mot biodiversité a été créé? Il a été il a été inventé à cause d'un problème que les scientifiques ont décelé à partir des années 70 et 80, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec la biodiversité qui était en train de disparaître progressivement. D'accord ? Donc face à cette prise de conscience, il y a eu une prise de conscience politique. Le problème, c'est comment fait-on pour évaluer la biodiversité ? Alors c'est un problème technique très complexe que je ne peux pas détailler, mais juste que vous ayez un exemple en tête. Si on s'intéresse à la diversité spécifique, c'est-à-dire que je vais prendre un cas particulier de la biodiversité que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire en gros le nombre d'espèces. Vous avez ici deux milieux. Vous avez un milieu représenté par, c'est très schématique, très, très synthétique, et un autre milieu, un autre écosystème. Lequel des deux écosystèmes est le plus riche ? Qui pense que celui-ci est le plus riche ? Levez la main pour voir. Celui-ci. Ok ? Et celui-ci ? Alors, c'est intéressant. Alors, ça veut dire que c'est extrêmement tranché. Finalement, vous êtes tous sûrs que c'est celui-ci qui est le plus diversifié. Vous ne savez pas. Ben, en fait, tout simplement, si vous regardez, ici, il y a effectivement plus d'espèces en tout qu'ici. Mais, si vous tirez un animal, dans celui-ci, vous avez plus de chances d'avoir soit cette fourmi, soit ce papillon. Tandis qu'ici, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir que ce papillon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, votre biodiversité, c'est, si vous prenez le nombre d'espèces, ça va être un problème de... Il faut quand même arriver à évaluer le nombre d'espèces présentes dans un écosystème. Ça, c'est quand même un problème absolument difficile à gérer, puisque pour connaître le nombre d'espèces dans un milieu, il faut avoir les scientifiques qui sont capables de déterminer toutes ces espèces. Il faut les récolter, et le pire, c'est qu'il faut les connaître. C'est-à-dire qu'il y a plein d'espèces qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas entrer dans les listes de la biodiversité, dans les listes d'espèces présentes dans un milieu. D'accord ? Donc le premier point, on en parle beaucoup, mais c'est difficile à évaluer, c'est des outils mathématiques et qu'il faut développer pour y arriver. Alors, maintenant, on a des petits éléments, des bases. Maintenant, pourquoi s'intéresse-t-on à la biodiversité ? Quel est l'intérêt pour l'homme ? Quel est l'intérêt que l'homme a à conserver une certaine biodiversité ? Ben alors, nous sommes en France, donc nous avons des fromages. Alors, vous avez ici des fromages corses. Donc, ça c'est... Non, mais si j'avais voulu mettre une diapositive avec les fromages de France, la diapositive était remplie de fromages. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Alors, qu'est-ce que la diversité des fromages ? Ça, c'est la diversité des animaux qui les produisent, variété de vaches, voire d'autres choses, variété de prairies, variété de bactéries et de champignons qui sont utilisés pour fabriquer le fromage. D'accord ? Donc ça, c'est la biodiversité, c'est notre culture. Maintenir cette biodiversité, c'est maintenir à la fois notre culture, mais aussi maintenir notre diversité alimentaire dans le cas des fromages. Autre source de la biodiversité, c'est aussi directement ce qu'on mange sous forme de fruits, par exemple. Ici, ce ne sont que un marché de fruits. Alors, je ne sais pas s'il y a des marchés de fruits comme ça à Boulogne ou à Saint-Martin-Boulogne, mais en tout cas, dans certaines régions du monde, il y a des marchés comme ça. Ça vous donne une idée de la diversité des fruits qu'on peut absorber. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est aussi parce que nous avons une alimentation qui est relativement variée. Alors, actuellement, évidemment, on a peut-être tendance à trop vouloir la diversifier, mais fondamentalement, si on mangeait tout le temps la même chose, on serait probablement à un niveau culturel différent. La biodiversité, c'est une source de biens alimentaires, c'est aussi une source de biens pour faire des maisons, pour faire des bateaux, enfin, ce que vous voulez. Donc le bois, par exemple, c'est une source dont on a besoin pour notre vie. Alors peut-être un peu moins maintenant parce qu'on l'a oublié, mais l'humanité ne se développe que grâce à des éléments comme ça, le bois. Vous avez ici un autre exemple, c'est le verre à soie, une source de biens. On utilise les verres à soie pour produire la soie qui va nous servir à fabriquer des étoffes. D'accord ? Et enfin, quelque chose que vous avez parfois oublié, c'est le fait que certaines plantes ou certains animaux peuvent avoir un effet lorsque vous les absorbez, un effet qui peut être néfaste ou positif. Un exemple, ici vous avez l'if. L'if produit, alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ça produit des petites aries rouges là qui est très gluante et on vous dit, il ne faut pas le manger, c'est toxique. Alors en fait, effectivement, les chevaux, quand ils les mangeaient, ça les rendait très très malades, au point que certains en mouraient. Parce qu'à l'intérieur, la riz est très sucrée, les choux adorent ça, mais ils mangent la graine qui contient des molécules toxiques. Les molécules toxiques, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une molécule qui avait un pouvoir anticancéreux, et ça s'appelle le taxol, et on a mis dans certains médicaments les molécules extraites de ces plantes pour traiter certains cancers. Donc évidemment, si vous mangez de l'if comme ça, comme un cheval le ferait, sans discernement, vous pourrez en mourir, mais la diversité des molécules contenues dans l'if nous a permis de mettre au point des médicaments. Donc c'est extrêmement important de maintenir un niveau de biodiversité, sachant que l'essentiel de la biodiversité n'est pas connu, c'est-à-dire que beaucoup de médicaments n'ont pas encore été découverts et pourraient disparaître avec la biodiversité si celle-ci diminuait. Quelque chose que vous oubliez, c'est la biodiversité, c'est l'héritage culturel et une source de valeur esthétique et spirituelle. Ici, Ayer Rocks, en Australie, c'est un rocher traditionnel dans la culture aborigène en Australie. Pour eux, alors c'est peut-être quelque chose que nous on a oublié, pour eux, c'est si ça disparaissait, c'est comme si leur culture entière disparaissait. Ça fait partie de la biodiversité culturelle qu'il faut maintenir. Il y a aussi tout simplement qu'on aime rêver face à une plage comme ça. D'accord ? Cet écosystème-là, il nous fait rêver. Il est indispensable que l'humanité conserve au moins une partie de ces rêves-là. Donc c'est une source de valeur esthétique et localement spirituelle. Bien sûr, ça veut dire que c'est une source aussi pour développer de l'écotourisme, la biodiversité. On ne va pas faire de l'écotourisme à Boulogne parce que on va aller plutôt aller dans un endroit un peu plus désertique, un peu plus espacé. Et il faut cette diversité-là aussi pour maintenir... maintenir le bonheur de l'humanité, on va dire. Parce que si tout est standardisé, homogénéisé, on aura des problèmes avec. Alors, la biodiversité, il y a encore un autre aspect et qui est totalement oublié, mais oublié même aussi par les médias, c'est le fait que la biodiversité, c'est une source de services écologiques. Depuis peu, on a compris que cette source de services était peut-être la plus importante des choses que la biodiversité nous apportait, même au-delà de notre alimentation. Et alors les exemples que j'ai cités, c'est le sol. En France, en Europe occidentale, mais pas que là, on a tendance à mettre de l'engrais, des pesticides, des fongicides, enfin en gros, d'avoir juste oublié que le sol est une structure naturelle vivante au sein duquel le recyclage des matières et des éléments se fait naturellement. Le sol, c'est donc une structure qu'on doit préserver et qui n'a pas besoin de l'humanité pour fonctionner normalement. Nous, on a tendance à vouloir le rendre artificiel, mais naturellement, il y a un service qui est rendu. Autrement dit, quand une feuille tombe par terre, elle est dégradée, va se transformer en éléments minéraux qui vont être de nouveau disponibles à une nouvelle plante. Ça, c'est quelque chose, un processus naturel qui se fait, qu'on doit absolument conserver. Ça veut dire que si on cultive des plantes dans un milieu totalement artificiel, il faudra remplacer tous les éléments de l'écosystème sol et ça nous coûtera une fortune considérable. Autre exemple, les abeilles célèbres en France. Vous savez très bien qu'en France, on a un problème avec les abeilles et pas qu'en France. Les abeilles meurent. Or, la plupart de ce que nous consommons sont des fruits et des fruits qui sont issus de fécondation de fleurs et qui sont pour beaucoup d'entre elles réalisées par des abeilles. Si nous n'avons plus d'abeilles, nous ne pourrons plus polliniser et nous n'aurons plus de fruits. Ceci peut vous paraître anodin, mais un champ de blé, enfin le blé ça marche pas, mais je ne sais pas si vous voulez des pêches, des prunes, ça marche pas non plus. Bon, des tomates, beaucoup de fruits en tout cas ont besoin d'abeilles pour pouvoir exister. Si on le faisait à la main, ça serait un coût absolument considérable qui ne serait pas possible que la société supporte. L'eau est recyclée naturellement. Ça, c'est l'exemple avec la rivière ici. Vous avez ici une utilisation de la biodiversité pour arrêter le désert. Les plantes, lorsqu'elles sont plantées, vont pouvoir arrêter certaines modifications climatiques qui sont par contre accélérées si on arrache les plantes à certains endroits car elles ne pourront plus repousser. La biodiversité, ça peut servir aussi simplement à éviter des événements comme ça. Ça, c'est une inondation. L'inondation, c'est souvent dû au fait que l'homme a modifié l'écosystème et que l'eau, qui était naturellement retenue par des fossés, naturellement retenue par la végétation, s'est retrouvée ravinée plus rapidement et amenée plus rapidement à des endroits où elle se trouve stockée. Généralement, c'est des endroits artificiels que l'homme a perturbés. Donc, tout simplement, si on maintient une certaine diversité, on va éviter des phénomènes d'inondation. Alors, encore un exemple de biodiversité. Il y a très longtemps, déjà au 19e siècle, on savait que dans un champ, si au lieu de mettre une espèce comme on fait actuellement, si on les mélangeait, on augmenterait la biomasse, c'est-à-dire qu'on pourrait produire plus de végétaux. Ceci est dû à quelque chose d'assez... Pas forcément si bien connu que ça, c'est que finalement chaque espèce, par exemple de plante, va utiliser une partie du milieu. Donc en associant plusieurs espèces, il va y avoir parfois une meilleure exploitation du milieu. Car une seule espèce n'exploitera que certains éléments, une autre espèce d'autres éléments, et donc en les associant, vous augmentez la biomasse. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis le 19e siècle, donc ça date maintenant. Et on a essayé de voir à plus grande échelle récemment, donc dans certains dispositifs expérimentaux, on a pris des champs entiers et on a essayé de voir, en mélangeant les espèces, si on augmentait vraiment la biomasse. Et le résultat est éloquent. Lorsqu'on vous mélangez les espèces, c'est-à-dire lorsque vous passez d'un champ avec une monoculture, avec un champ avec plusieurs espèces, vous avez des résultats d'augmentation de la bioproductivité. Alors pourquoi on ne fait pas ça? On ne fait pas ça parce que tout simplement, nous, on veut ramasser le blé d'un coup. Ramasser le blé, ça veut dire avec une moissonneuse batteuse. Si on associe le blé avec une légumineuse, par exemple, bon, ça va être compliqué parce que les deux sont pas, vont pas fructifier en même temps. Par contre, en Chine, ils ont testé avec des riz de nature différente, et si le ramassage se fait à la main, ce qui se fait encore dans certains endroits de Chine, eh bien, ils augmentent non seulement la bioproductivité, mais ils diminuent le risque de maladies présentes dans le riz. Donc, comme quoi, ça peut marcher, mais évidemment, il faut que la logique économique, parfois, s'écarte un peu de la fonction champ. Alors, regarde, ce camembert nous montre que l'essentiel de la biodiversité spécifique est situé au niveau des insectes. Donc, en fait, si on compte le nombre d'espèces présentes dans le monde, l'essentiel du monde, ce sont des insectes. Et vous voyez quand même quelque chose qui est très important, c'est la diversité connue, c'est celle-ci. La diversité estimée totale, c'est celle-ci. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a une bonne part de la diversité qui n'est pas connue. Et si vous regardez d'autres groupes, ici par exemple les champignons en marron, vous voyez que la part connue est beaucoup plus faible que la part qui est potentiellement à découvrir. Et là où il est évident qu'on ne connaît pas grand-chose, c'est dans le monde du petit. C'est les microbes, les bactéries, ce qu'on appelle les archées, qui sont des tout petits organismes. Finalement, on n'en connaît pas grand-chose. Par contre, évidemment, on connaît bien, bien mieux, par exemple, toutes les espèces de mammifères, d'oiseaux. C'est comme ça. Donc, dans la biodiversité, on doit bien se rendre compte de la prédominance de certains groupes, mais aussi du fait qu'on a encore beaucoup de connaissances à acquérir pour avoir une idée de la biodiversité réelle. Alors, cette biodiversité, je vais vous en faire un petit panorama dans le temps. Parce que dans le concept de biodiversité, il y a un concept de temps. La biodiversité, elle peut être estimée à un temps T, mais cette biodiversité, elle évolue au cours du temps, car l'ensemble des organismes présents sur nos planètes sont issus de processus évolutifs, donc on ne peut pas écarter les deux phénomènes. Alors ici, c'est une faune particulière qui vient de ce point-là en Colombie-Britannique, et vous allez voir, juste, il y en a aussi en Chine. Regardez un petit peu, il existe des fossiles qui ont plus de 500 millions d'années, et si on les compare à certains organismes actuels, ici c'est ce qu'on appelle une acidie, vous voyez une ressemblance assez frappante entre ce fossile, donc il y a plus de 500 millions d'années, et cet organisme-là. Signe que certains groupes, et là c'est plus une biodiversité à l'échelle spécifique, mais à l'échelle des groupes, certains groupes sont apparus il y a très longtemps et ont maintenu une certaine morphologie au cours du temps. Mais il existe aussi des groupes qui sont apparus à l'époque, donc il y a plus de 500 millions d'années, et qui ont totalement disparu. Exemple, cet animal-là, c'est Anomalocaris, Il fait partie de la biodiversité passée, puisqu'il n'en existe plus, plus aucun représentant. Cet animal, on avait découvert sa bouche, et on pensait que sa bouche, qu'on trouvait tout le temps isolée, qui a une forme de tranche d'ananas, là, cette bouche-là étonnante, hein, puisqu'il n'existe rien de pareil dans le monde actuel, eh bien on avait cru que c'était une méduse, parce qu'on n'avait pas compris que c'était la bouche d'un animal entier. Finalement, l'animal entier, on a réussi à le reconstituer, cet animal-là, et donc cet animal ici n'est pas un arthropode, ça ne fait pas partie du groupe des insectes, des crustacés, et c'est un représentant d'un groupe qui a totalement disparu. Donc dans le passé, il y a pu y avoir des modèles, entre guillemets, des modèles d'un organisme qui ont totalement disparu. Et quand on regarde un petit peu avant la faune que je viens de présenter, on voit ce genre d'organisme. Et donc ça veut dire quoi, là, ce genre d'organisme? C'est, on a une diversité de formes assez surprenante. Tous les organismes ressemblent à des feuilles. Certains sont fixés au sol, d'autres sont libres. Et entre les deux séries d'organismes que j'ai vues, il y a 30 à 40 millions d'années, signe qu'il s'est passé quelque chose et que la biodiversité actuelle, au moins quand on parle des animaux, est apparue probablement assez rapidement au début d'une période qu'on appelle le Cambrien. Donc ça, c'est intéressant parce que finalement, la biodiversité, classiquement, on va parler de la biodiversité à l'échelle des espèces, mais il faut aussi comprendre la biodiversité à l'échelle de ce qu'on appelle les plans d'organisation, c'est aussi très important, et il y a donc plusieurs façons de voir les choses. Traditionnellement, on considère qu'au début du Cambrien, il y a une très faible biodiversité des plans d'organisation et qu'elle augmente jusqu'à maintenant, et en fait, on se rend compte, certains disent que la biodiversité du passé, au niveau des plans d'organisation, était plus grande que l'ère actuelle, et d'autres considèrent que bon, ça reste encore à démontrer. Donc la biodiversité au niveau du temps, il faut la voir à différents niveaux. Vous, ce que vous allez voir en cours, c'est quelque chose d'un peu plus classique. C'est que cette période de la vie fossile abondante, si on regarde, on fait un graphique avec le nombre de genres connus et le temps, on voit qu'il y a une tendance à l'augmentation de la diversité générique. Donc c'est quelque chose qui se rapproche de la diversité spécifique, c'est-à-dire du nombre d'espèces. Mais si vous regardez bien la courbe en rouge et les histogrammes en vert, vous voyez que ce n'est pas une ascension régulière et qu'il y a notamment des périodes de creux. Vous voyez notamment celui-ci. C'est clairement une période durant laquelle la biodiversité, je parle dans l'histoire de la planète, a connu une chute importante. Vous avez ici une autre chute importante. Ici, c'est un âge particulier. C'est la mort des dinosaures. Ici, il y a une crise. Alors, vous en avez tous entendu parler. Ici, il y a une crise de la biodiversité. Il y a 64-65 millions d'années, une crise qui va entraîner la disparition d'un grand nombre de groupes, dont les dinosaures. Alors, ce que vous dites, quand vous dites les dinosaures sont morts, au sens phylogénétique, c'est-à-dire au sens où nous, évolutionnistes, nous considérons les organismes, il faut bien penser que pour nous, les oiseaux sont des descendants des dinosaures. Donc, il faut considérer que seules les grosses bêtes ont disparu, mais ce qui est oiseau a continué à subsister. Vous voyez qu'il y a eu une crise redoutable ici, à la fin d'une période qu'on appelle le Permien, qui est la crise la plus sévère que le monde a connue, si on exclut la crise qui a précédé le début du Cambrien. C'est probablement la crise la plus sévère où plus de 95% des espèces animales ont disparu. Donc c'est une crise sans précédent. C'est avant et après, le monde avait changé. Alors la question, c'est est-ce qu'actuellement, nous connaissons une crise de la biodiversité? Est-ce que la biodiversité est en danger? Alors, quels seraient les facteurs qui seraient responsables d'une possible crise de la biodiversité? Alors, vous avez ici un phénomène assez connu, assez évident, c'est ce qu'on appelle la déforestation. Donc la déforestation, vous avez ici une forêt amazonienne, d'accord? Ce qu'il en reste après le passage, donc qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on récupère quelques espèces intéressantes, on coupe quelques arbres intéressants, on les arrache de la forêt. Le reste, finalement, ça n'intéresse pas beaucoup, donc on brûle, et ensuite on met des animaux dessus. Mais généralement, quand on fait ça, on dégrade le sol. Ce sol qui est un système qui se recycle naturellement. Et en dégradant le sol, avec les pluies tropicales, il part dans l'eau. Et donc finalement, on a un substrat presque stérile qui apparaît. Donc en fait, ça dure que quelques années. Et ça, c'est pas un système, je dirais, durable. Mais c'est ce qu'on fait quand même. Ici, c'est Londres. Londres, avec l'exploitation du bois, à la fin du 19e siècle, Londres, je vous rappelle, capitale de la première puissance mondiale, hein, à cette époque-là, et voyez la quantité de bois que la Tamise pouvait charrier. Donc la déforestation en Grande-Bretagne, c'est quelque chose de sérieux. Hein. Vous avez ici un comté de Grande-Bretagne où vous voyez la forêt originelle et sa, non seulement sa disparition, mais aussi un élément important, sa fragmentation. Le milieu forestier est devenu fragmentaire dans certaines régions d'Europe. Ça, la déforestation, vous avez tous compris que s'il y avait des grands animaux qui vivaient dans la forêt, si on coupe la forêt, les grands animaux disparaissent. Alors on peut parler du gorille, mais enfin on peut tout simplement aller voir l'ours ou le loup. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller forcément très loin pour s'inquiéter de la disparition de la biodiversité. On en a à nos portes finalement. Ici, la pollution. Vous avez deux types de pollution très évidentes. La pollution directe, un pétrolier qui perd son pétrole et qui pollue des plages, d'accord? Ou aussi, ici, des déchets. Tous, vous produisez des déchets. Là, vous avez mangé, vous avez produit des déchets. Aujourd'hui, vous en avez. Qu'est-ce qui vont devenir ces déchets? Comment on les gère? Ben, parfois, ça arrive souvent, qu'ils sont gérés de cette façon-là. Vous voyez, les déchets qui s'accumulent, ça, c'est une source de pollution qui est une menace pour les organismes qui vivent là. Une autre raison d'inquiétude pour le devenir de la biodiversité, c'est la surexploitation des ressources naturelles. L'exemple que vous pensez souvent en premier, c'est celui de la pêche. Donc lorsque l'on pêche de façon abusive certaines espèces, vous savez qu'on peut empêcher vraiment de façon importante son cycle de reproduction et aboutir à une disparition des populations. On peut penser par exemple à la morue, au thon, qui sont trop pêchés. Vous avez aussi des pêches qui sont des pêches destructrices comme celles qui utilisent l'explosif. La pêche à l'explosif, vous savez que dans les régions récifales, les poissons se cachent dans les récifs, donc il est très difficile de les pêcher. Les poissons sont moins abondants que dans la Manche ou dans la mer du Nord, contrairement à ce que vous pensez. Il y a beaucoup plus de poissons dans les mers froides ou tempérées. Mais comme ils sont difficiles à pêcher en zone tropicale, ils les pêchent à la dynamite. C'est beaucoup plus simple. Et ces animaux remontent à la surface, on peut les pêcher en les attrapant à la main. Et ça, évidemment, c'est un inconvénient majeur, c'est que la pêche à l'explosif, ça détruit le milieu, ça détruit l'écosystème. Donc on va avoir une prise de poissons à intenter, mais les poissons ne reviendront plus puisqu'il n'y a plus l'écosystème. Il y a aussi l'impact des espèces invasives. Alors ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément conscience, même si vous entendez parler des espèces invasives. Nous avons des continents qui sont espacés, nous avons des aires suffisamment distantes pour que chacune possède un florilège d'espèces particuliers propres à un endroit. Quand l'homme déplace une espèce d'un endroit à un autre, ces espèces peuvent rentrer en concurrence ou en prédation directe ou simplement en mangeant la même chose, il y en a une qui va être plus efficace que l'autre, et les espèces de l'endroit d'origine peuvent disparaître. Deux exemples, le crabe vert qui est une espèce autochtone sur nos côtes. En bleu, sa distribution originelle. Vous voyez, c'est une espèce de chez nous. On l'a introduite sans le vouloir, hein. Ça peut être volontaire ou involontaire. On l'a introduit partout où il y avait du rouge ou du vert. Vous voyez la surface qu'occupe maintenant le crabe vert sur le monde. Eh bien, cette espèce, elle rentre en concurrence avec d'autres espèces de crabes. Un autre exemple, et j'ai fait exprès de citer des espèces invasives qui venaient de chez nous, parce que généralement, vous connaissez celles qui viennent de l'étranger. Mais pas l'inverse, comme si nous, on était propres. Eh bien, ici, l'espèce les moineaux. Les moineaux que vous connaissez, ça, c'est son aire de distribution originelle. Bon, l'empereur du Portugal, lorsqu'il s'est réfugié au Brésil au début du 19e siècle, il s'est ennuyé de son Portugal. Parce que le Brésil, il n'y avait pas de moineaux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait amener des moineaux. Puis ces moineaux sont partis parce qu'ils se sont sauvés. Ils ont envahi le Brésil entier, quasiment. Donc, vous voyez, et maintenant, en quelques années, il y a eu des millions et des millions de petits moineaux à partir du couple que l'empereur du Portugal avait ramené. Donc, c'est évidemment en concurrence des espèces locales que ces moineaux vont se nourrir. Alors ici, ça veut dire que l'humanité a pris conscience de ces problèmes et a commencé à établir des cartes pour voir quels étaient les endroits qui étaient les plus importants à préserver pour l'avenir de l'humanité. Alors ça peut se discuter. Personnellement, je ne suis pas forcément d'accord sur tous les points de cette carte, mais c'est quelque chose qui est quand même assez reconnu par tout le monde, vous avez des régions du monde qu'il faut préserver plus que d'autres. Alors, quelles sont ces régions? Est-ce que nous, on a une responsabilité en tant que Français? Le bassin méditerranéen est une région à protéger, car possédant toute une spécificité écosystémique qui est menacée, parce que vous savez que la zone méditerranéenne, c'est quand même une zone où l'homme est né, enfin, où l'homme s'est beaucoup développé, n'est pas né, les premières civilisations ne sont pas de là, mais en tout cas, il y a eu un développement important. Ça fait très longtemps que cet écosystème est modifié. Il est à terme vulnérable. Par exemple, ici, dans les Antilles, nous avons la responsabilité de plusieurs îles là-bas. Eh bien, ces îles, ces milieux insulaires, sont souvent des milieux extrêmement menacés, car les espèces qui y sont présentes sont souvent localisées que sur ces îles. L'introduction d'espèces exotiques peut modifier les écosystèmes, ou alors tout simplement le fait que l'homme va habiter là, va réduire la surface habitable de certaines espèces et vont les faire disparaître. Aux Antilles françaises, il y a des tonnes d'espèces, des dizaines d'espèces qui ont déjà disparu. Vous avez par exemple ici, vous savez, à La Réunion, à l'île Maurice, il y avait des oiseaux non volants qui ont disparu en quelques dizaines d'années de prédation, le dodo. Il y avait plusieurs espèces de dodos. Ces dodos ont disparu de par la prédation de l'homme. Et jamais plus vous ne retrouverez de dodos. Voilà, je pense que j'ai présenté les éléments qui me semblent être les plus importants pour qu'on entame une discussion. Alors vous voyez ma voix, j'ai un peu de mal avec ma voix aujourd'hui. Mais... Alors maintenant, ce que j'attends de vous, je vais juste boire un verre d'eau. Ce que j'attends de vous, c'est que vous me posiez des questions.